ménagère veut le progrès, mais elle ne veut pas la pagaille.
Je peux expliquer le logiciel libre en trois mots. Liberté, égalité, fraternité.
Apophème, an old aphorism that I want everybody to remember. If you're not paying for the product, you are the product.
Premier objectif, c'est de développer l'intelligence artificielle et de faire du moteur de recherche Google l'authentique intelligence artificielle. Et son deuxième objectif, c'est d'euthanasier la mort. Les dirigeants de Google sont obsédés par l'idée de faire reculer la mort.
Je me définis un petit peu comme un des architectes d'origine de l'Internet et je suis le progrès ou plus exactement le statu quo de l'Internet depuis pas mal d'années. Je fais partie des gens qui souhaitent qui considèrent qu'il est indispensable de revoir l'architecture de l'Internet.
Bienvenue sur 50 à Galaxy, le podcast. Votre rendez-vous mensuel pour échanger sur les bonnes pratiques, les innovations et les ruptures liées à la transformation numérique.
Bonjour et bienvenue dans 50 à Galaxy, le podcast de la transformation numérique. Fabrice Darmon au micro pour ce quatrième épisode. Nous parlons santé connectée avec Uwe Diegel. En deuxième partie, nous retrouvons nos chroniqueurs pour diverger et converger sur le sujet. Mais pour l'instant, je suis avec Nicolas Bermond sur la terrasse du 31 rue Blanche. Nicolas, bonjour.
Bonjour Fabrice.
Directeur de l'agence digitale 50a.fr. Et pour notre podcast du mois de juin, on s'attaque à un vaste sujet qui pourrait faire l'objet d'une série de podcasts à lui tout seul, la transformation numérique de la santé.
En effet Fabrice, ce secteur d'activité s'est emparé d'Internet et des technologies de l'information très vite, dès leur naissance, fin des années 90. On a eu l'apparition du phénomène e-santé, e-health ou encore m-health pour la santé sur mobile. On a eu donc de nouveaux usages des technologies par les acteurs de la santé, de nouvelles professions, mais aussi une évolution de la figure du patient. On est en effet acteur de notre propre santé. On parle de self-management ou de quantified self, c'est l'auto-mesure de soi. On voit qu'on va vers une médecine prédictive, hein, prédictive des futures maladies grâce à la génomique et au big data, une médecine préventive qui identifie les facteurs de risque, une médecine participative et une médecine personnalisée sur mesure. On parle de la médecine des 4P, Fabrice. L'enjeu est en fait de tuer, de retarder la mort. On a une utopie ancestrale de l'immortalité qui est présente dans la science-fiction et qui est le support aujourd'hui du transhumanisme. On pourra en rediscuter du transhumanisme dans un autre podcast. Aujourd'hui, il existe 100 000 applis de santé. Les patients utilisent en général des applis comme carnet de suivi, objets connectés, des trackers d'activité, prévention de crise cardiaque, capteurs de chute, trackers d'humeur. Les médecins aussi sont nombreux à utiliser la technologie pour améliorer leur métier, leur prise en charge ou les diagnostics. Aujourd'hui, on a 86% des jeunes médecins qui déclarent utiliser des applis pour leur métier. Alors souvent des bases de données, l'aide au pronostic et je dirais surtout la prise de rendez-vous. On va vraiment vers un corps augmenté et à travers ça, on a l'idée d'injonction au bien-être, au bien-vivre, mais aussi l'égalité d'accès aux soins grâce à la télémédecine. Il y a un réel enjeu d'éthique de la récolte des données personnelles médicales et ce qui amène une crainte de revente aux industriels et aux assurances. On peut aussi craindre l'ubérisation de la santé. On se demande surtout, en fait, comment on va pouvoir conserver le secret médical. J'ai juste envie de donner deux exemples pour introduire ce podcast. On a IBM Watson qui a vendu à 50 hôpitaux sa technologie dans le monde. Et finalement, en fait, cette technologie n'est pas si performante. Son problème, il privilégie les big data plutôt que les derniers diagnostics. Le deuxième exemple, en fait, c'est sur les limites de la bioéthique avec la Chine qui score votre réputation et votre ADN. Le résultat, si vous avez une mauvaise note, votre assurance augmente, on vous refuse un prêt, voire l'accès à un train. J'ai envie de dire que Black Mirror, la série, est maintenant une réalité.
Nicolas, merci. Uwe Diegel, bonjour.
Bonsoir Fabrice.
Alors, vous débutez votre parcours professionnel comme pianiste classique et suite à un accident à l'âge de 26 ans, vous vous passionnez pour la recherche médicale et le développement de nouvelles techniques de diagnostic. Depuis 2008, vous êtes le CEO de Healthworks et en 2017, vous avez fondé Life in A. Uwe Diegel, racontez-nous la première fois que vous vous êtes connecté à Internet.
Ah, c'était miraculeux. Il me semble que ça devait être en 1996-97, et j'ai visité la Nouvelle-Zélande. J'étais en train de visiter mon frère Olaf, qui était professeur de robotique au Massey Institute of Technology. Et il avait ce nouveau truc qu'il appelait l'Internet, et un programme qui s'appelait Netscape. Et je me rappelle, c'était extraordinaire parce que j'ai commencé à fouiller, et il y avait zéro sécurité. C'était extraordinaire. Et les gens, ils mettaient tout et n'importe quoi. J'ai découvert qu'un de mes partenaires cachait de l'argent sur les îles Caïmans. C'était fabuleux. Mais ce qui m'avait frappé, c'est que soudainement, tout était disponible en tant qu'information.
Et quel est l'Internet de vos rêves?
L'Internet de mes rêves, de toute façon, il est déjà là aujourd'hui. C'est que c'est un Internet qui est rentré dans l'inconscient des gens. Aujourd'hui, les gens ne se posent pas la question quand ils achètent un ordinateur, est-ce que mon ordinateur va avoir Internet? L'Internet, c'est un fait acquis, et pour moi, c'est le fait que c'est une communication gratuite. La semaine dernière, j'étais en Chine, et où beaucoup de réseaux sociaux sont coupés. On n'a pas Facebook, on n'a pas FaceTime, ou ni Messenger. Et soudainement, je me retrouvais démuni de mon moyen de communication avec mes enfants. Parce qu'on s'habitue tellement vite à avoir cette information disponible instantanément. L'Internet de rêve, c'est celui qui est aujourd'hui, qui est complètement ouvert à n'importe quoi.
Et quel serait l'Internet de vos cauchemars?
C'est celui qu'on a en Chine, par exemple, où tout est contrôlé, où les gens ne vous laissent pas voir ce que les gens veulent que vous voyez. Juste avant de déménager en France en 2002, j'habitais un petit village en Angleterre qui s'appelait Sutton Courtenay, et dans le cimetière de Sutton Courtenay était enterré un mec qui s'appelait Eric Blair, de son nom de plume George Orwell. Donc, quand j'étais là, j'ai habité là pendant un an et j'ai relu tous les livres de George Orwell, 1984, le roman dystopique sur le futur où le gouvernement est en train de tout regarder, Big Brother is watching you. Vous connaissez le roman, certainement. Et c'était étonnant parce que George Orwell aurait pas pu prédire qu'en fin de compte, c'est nous qui mettons nous-mêmes les caméras et on s'inquiète que les gens ne regardent pas nos caméras. Aujourd'hui, tout le monde est en train d'agiter le fantôme de la sécurité des données pour des fausses raisons. Et ça, en fait, c'est le pire Internet, c'est quand les gens, ils s'imaginent des fausses idées sur, en fait, qu'est-ce qu'on va faire avec leurs données.
Uwe Diegel, quelle est votre définition de la transformation numérique?
La transformation numérique, aujourd'hui, c'est devenu un truc un peu vague. C'est devenu un de ces termes que tout le monde utilise pour n'importe quelle raison. Moi, c'est l'utilisation, le fait que l'Internet soit rentré dans l'inconscient des gens. La transformation numérique, c'est seulement un outil qui nous permet de travailler plus vite, plus rapidement. Par exemple, moi, quand je voyage, je ne prends même plus d'ordinateur. Je prends pas mon ordinateur au boulot. J'ai un ordinateur à la maison, j'ai un ordinateur au boulot et tout est synchronisé. Donc tout ce que je fais sur mon ordinateur à la maison est automatiquement sur mon ordinateur au bureau. Et quand j'arrive en Chine, je prends n'importe quel ordinateur, je mets mon code et je suis sur mon ordinateur. C'est, pour moi, la transformation numérique, c'est surtout un outil de travail. La transformation numérique, on en parlait un peu plus tôt, mais c'est un de ces mots magiques que tout le monde utilise à n'importe quel escient, comme l'ubérisation. Et je vais répéter ce que je vous ai raconté un peu plus tôt. Aujourd'hui, on utilise le mot ubérisation n'importe comment. Et quel est, par exemple, si on se demande la question, qu'est-ce que c'est que Uber ou qu'est-ce que c'est qu'un taxi? Un taxi, c'est une voiture qu'on paye pour nous amener de A à B. Qu'est-ce que c'est qu'un Uber? C'est une voiture qu'on paye pour nous amener de A à B. En fait, leur rôle est identique sur l'Uber. C'est la méthode qui a changé. Et la méthode de travail utilisée, la transformation numérique, c'est tout simplement un changement de méthode de travail qui va tout changer. Parce que tout est constamment en période de flux. Je ne sais pas si vous avez lu un roman de Karamazov, de Dostoïevski, les frères Karamazov, ou Dostoïevski qui disait que le monde est un océan où tout touche et communique. Mon frère, la cotation exacte, c'est mon frère demandait pardon aux oiseaux, ce qui semble absurde, mais il avait raison, car le monde est un océan où tout touche et communique. Et aujourd'hui, l'Internet nous permet de tout toucher et de faire communiquer d'une manière beaucoup plus rapide qu'il n'était pas là avant.
Uwe Diegel, où en est-on dans le domaine de la santé connectée?
Ah, c'est toujours la santé sensible. Au début, quand on avait lancé la santé connectée, c'est vers 98 qu'on a eu les premiers vrais outils de santé connectée, parce qu'en 98, on a un instrument magique qui est apparu, qui était le téléphone portable, qui était l'iPhone 3, qui est apparu en juin 2008. Et soudainement, avec l'iPhone 3, on avait un moyen de communiquer des données d'une manière relativement simple et efficace et qui avait une ubiquité parce que tout le monde, on voyait immédiatement que tout le monde allait avoir accès à ce téléphone portable qui nous permettait d'intégrer en fait le partage des données d'une manière presque quotidienne sans que les gens y réfléchissent trop. Mais donc, au début, on s'était dit que la santé connectée, ça allait nous permettre d'offrir une santé non pas pour tous, mais pour tous et chacun. Ce qui veut dire une santé individualisée, que chaque solution de santé serait bâtie autour de vos besoins à vous, Fabrice, ou de Nicolas, ou de moi-même. On serait capable de donner des données vraies, des solutions vraiment personnalisées. Mais malheureusement, aujourd'hui, on se retrouve dans un monde qui est un peu artificiel où la grande majorité de ce qui se fait en santé connectée ne sert pas à grand chose. Malheureusement. Parce que les seuls gens qui aujourd'hui achètent des objets de santé connectée, généralement, c'est les gens qui n'en ont pas besoin. Ce sont déjà des athlètes qui cherchent tout simplement une affirmation de performance. C'est pas la personne qui en a vraiment le plus besoin qui, pour faire de la santé préventive. Parce que le grand enjeu de la santé de demain, c'est de vraiment transformer notre santé qui est aujourd'hui une santé curative en une santé positive ou prédictive, où on a été capable d'aider les gens à faire de la santé avant que le problème n'apparaisse.
À votre avis, Uwe Diegel, combien de temps l'économie va-t-elle pouvoir tenir avec le modèle de l'ancien monde ?
Le fait est qu'elle va tenir, parce que la santé est un droit universel, c'est une des premières choses qui est posée. Et il y aura toujours de l'argent pour la santé, on va toujours être en train de se battre, et le système va être constamment en évolution. Ce qui est surtout important, c'est qu'elle est en train de changer, parce qu'on sait aujourd'hui que tout ce qui peut être connecté va être connecté, c'est même pas une question, que ce soit une voiture, une chaise, une table, votre microphone, si ça peut être connecté, ça va être connecté, ça va nous créer un nouvel écosystème, et ça va changer le système de santé. Mais la dépense sur la santé, ça va toujours représenter entre 15 et 20% du budget du gouvernement global. On essaye de sauver, on essaye de pousser la santé préventive, on essaye de pousser des solutions et de changer le système. Mais on aura toujours de l'argent pour la santé, parce que c'est un droit. C'est la beauté du système de santé français, c'est que la santé est un droit. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un privilège, c'est un droit de tout le monde d'avoir accès à des systèmes de santé. Et c'est ce qui rend la santé française tellement merveilleuse.
Et à votre avis, quels sont les secteurs d'activité qui vont se faire ubériser dans les deux prochaines années ?
Oui, on revient sur la définition de ubérisation, c'est très intéressant. Je pense que les deux secteurs qui vont être le plus challengés, ça va être, un, le secteur de l'assurance qui va complètement changer, parce que non seulement le système lui-même va changer fondamentalement. Imaginez, par exemple, que quand toutes les voitures deviennent autonomes, comment est-ce qu'on va assurer les gens? Est-ce qu'on va assurer? Si votre voiture, qui est une voiture maintenant, entre guillemets, intelligente, décide de vous tuer pour sauver la vie d'un enfant qui marche devant la voiture, donc elle décide que la vie de l'enfant a plus de valeur, qui est responsable? Qui va payer? Est-ce que c'est la voiture? Est-ce que c'est l'assurance? Donc ça, c'est les systèmes qui vont changer, mais ils vont surtout changer parce que, on le sait tous, les GAFA, ils arrivent, les Google, Amazon, Facebook, Apple, etc., qui commencent eux-mêmes à offrir des nouveaux systèmes de santé, un peu plus, des systèmes d'assurance un peu plus personnalisés, et généralement, les gens, ils ont de moins en moins peur, ils cherchent des nouvelles solutions. Et en même temps, on a une méfiance intrinsèque contre les assurances. En France, on sait que les assurances sont là pour nous entuber. C'est la perception du grand public. On sait que les assurances, c'est tous des salauds, parce qu'on imagine que les assurances sont là pour vivre sur les maladies. Ils font de l'argent sur le dos. Ça, c'est la perception du grand public. Moi, je sais en fait que les assurances, elles jouent un rôle essentiel. Mais en fait, la perception du grand public, c'est que l'assurance, on prend pas une assurance parce qu'on veut marcher avec son assurance main dans la main dans un champ de blé sous le beau soleil. C'est pas pour ça qu'on prend une assurance. On la prend toujours au cas où. What if? Qu'est-ce qui se passe si je vais avoir un accident? Donc, le rôle de l'assurance va changer, mais aussi le rôle de la médecine. L'ubérisation. Je dis pas que l'ubérisation, on va remplacer les médecins par les machines. C'est pas du tout ce que je dis. Mais ce que je dis, c'est que le rôle du médecin va changer parce qu'il va avoir accès à beaucoup plus d'informations pour vous donner les meilleurs soins.
Uwe Diegel, merci. Vous écoutez 50 à Galaxy, le podcast de la transformation numérique. Je suis en compagnie des loups de mer et des pointures du web français. Deuxième partie, podcast, convergence et divergence sur la transformation numérique de la santé. Je suis en compagnie de Paul Richardet, agitateur de communauté, de Fabrice Epelboin, ubérisateur citoyen, d'Anne-Caroline Poco, scénariste du futur, de Nicolas Bermond, directeur de l'agence 50a.fr, de Glenn Roland, digitaliseur numérique de l'informatique, de Christophe Ducamp, spécialiste de l'IndieWeb, et de Pierre Noreau, petit explorateur de l'innovation publique. Et je passe tout de suite la parole à Paul Richardet.
L'interview qu'on a eue était assez intéressant. Était assez intéressant parce qu'il est, à mon avis, il est assez révélateur de l'ambiguïté qu'il y a sur ces sujets. C'est-à-dire qu'en même temps, on a du business, on a une techno qui n'est pas stabilisée. Et puis, on sent qu'il y a un espèce de flou dans qui fait quoi, qui contrôle, qui, etc., avec les GAFA, tout ça. La santé, c'est une problématique qui est très lourde, parce qu'il y a du business, il y a de l'intérêt général, il y a de l'affectif ou de la vie, ou de la dureté de la vie personnelle. Et puis, dans le cadre de la transition, on n'arrive pas encore à bien à lire un peu par où ça sort. Je prendrai un exemple, c'est celui des données. Il y a une grosse protection sur les données privées de santé. Hein. Le secret médical est un des plus vieux secrets qui doit remonter au Moyen-Âge. Et en même temps, donc ça appartient à la personne, c'est vos données de santé. Ceci dit, si vous n'êtes pas un expert, vous ne savez pas les lire. Hein. C'est parce que vous ne connaissez pas les taux de sucre, etc. Donc ça fait appel à une expertise. Et puis en même temps, ces données, si elles sont agglomérées, elles permettent de façon collective, hein, il y a une notion de collectif, c'est-à-dire que mes données à moi, elles m'intéressent que moi, mais si on prend 10 000 cas comme moi, on peut commencer à comprendre l'évolution d'une maladie et donc ça devient des données publiques. Donc il y a une difficulté sur l'analyse de ces données qui sont, est-ce qu'elles sont personnelles? Est-ce que c'est des données d'expertise? Elles appartiennent aux experts? Ou est-ce que c'est des données collectives, c'est-à-dire qu'elles appartiennent à tous, et que moi, si je donne mes données à un fonds de recherche, ou est-ce qu'elles vont pas permettre de sauver d'autres gens? Donc, et ça, aujourd'hui, il y a une difficulté juridique, une difficulté d'appréhension. Est-ce que, sur ces données, je pense qu'il y a besoin d'une clarification.
Alors, je vais rebondir sur l'intervention de mon ami Paul, essayer de faire toucher du doigt à quel point les données de santé sont vraiment l'aboutissement du monde orwellien qui nous était évoqué lors de cette intervention, avec cette grande arnaque des données privées et de leur protection. Pour ce qui touche de la santé, vous pouvez protéger les données personnelles autant que vous voulez. De toute façon, il y aura un pot commun de façon à faire un petit tour de passe-passe à base de big data qui, même en anonymisant nos données, auront un impact individuel sur chacun d'entre nous. Très concrètement, à partir d'une lecture surtout temporelle des données santé, on peut commencer à faire du prédictif. À partir du moment où on fait du prédictif, on tombe dans un problème assurantiel. Si je suis capable de prédire que un tel aura un cancer dans 5 ans, vous savez bien que je ne vais pas l'assurer en tant qu'assureur. Et pourtant, cet un tel va naïvement confier ses données de santé et tôt ou tard se retrouver dans des problèmes assurantiels assez catastrophiques. Et on va arriver malgré tout à un paradigme avec la protection de la vie privée dans lequel on a déjà fait un certain chemin, qui est que à titre personnel, je vais avoir un intérêt à donner mes données de santé parce que ça va m'apporter un vrai surplus de santé, un vrai bénéfice immédiat. La santé prédictive va incontestablement être un énorme plus pour nous tous, mais va avoir un effet pervers qui va amener tout un tas de gens vers un désert assurantiel. C'est quelque chose qui nous menace et vu la dextérité avec laquelle la société s'est saisie de la protection des données personnelles, malgré le GDPR, on s'apprête vraisemblablement à vivre de grandes catastrophes.
En écoutant cette interview placebo, j'ai eu deux visions. Une vision très positive de la santé demain. J'imagine la santé connectée où tout d'un coup on a quelques petits capteurs internes et puis au niveau des gestions de données tout est mis dans la blockchain, on peut choisir les données qu'on veut donner, qu'on veut partager. Et puis, ça se passe extrêmement bien. À un moment donné, si on a le moindre problème, on a une petite alerte, bien avant, en manière préventive, et on va se faire soigner. Du coup, même le nom maladie n'existe plus. C'est-à-dire, on est tous chroniquement en bonne santé, et on ne s'occupe plus de ça. Et la deuxième vision, c'est plutôt une vision négative. Donc c'est la même. Avec ces données, on a tout d'un coup les assurances qui nous tombent dessus, qui nous disent « Ah bah oui, bah, toi t'as trop bu hier, donc chut, hop, ça y est, deuxième verre de vin, hop, augmentation ». Du coup, on n'a absolument plus la liberté de pouvoir vivre. On est obligés tous de marcher. Donc, toute la ville se transforme en un immense stade où tout le monde marche. On n'a plus la voiture de fonction, mais on a la basket de fonction qui est plus ou moins dynamique. Et la santé devient une préoccupation permanente et on est même obligé de tous être heureux.
Bon, je voulais tout d'abord remercier Hué, qui nous donne une vision très large en fait de la santé connectée. Et surtout, je partage trois passions avec lui. Ma première passion, c'est le piano. Ma deuxième passion, c'est le commerce. Et je pense qu'il, pour ça, il est vraiment doué. Hein. Il nous fait rêver. Et surtout, il arrive à simplifier des problématiques qui sont très complexes. Et ma troisième passion, c'est l'entrepreneuriat. Et comme Hué a vendu plusieurs entreprises et que c'est un vrai entrepreneur, donc on peut dire qu'il réussit, je pense qu'il a tout à fait sa place dans le podcast. Pour la santé connectée, en fait, moi, je suis fan de Quantify Cell avec Christophe. Hein, on avait même l'association My Data Labs qui regroupait 700 quantifieurs. Il y a de ça une dizaine d'années bientôt. Pourquoi j'étais passionné de ce sujet, c'est parce que moi-même, en fait, je me quantifie. Hein, dès que je cours, je quantifie mes parcours. Je quantifie aussi les kilomètres que je fais. Je fais des photos aussi pour venir faire de la quantification visuelle. Ma troisième quantification, c'est que je regarde ma consommation de données. Et en fait, j'ai réussi à identifier, en fonction des quantités de données que je consomme, d'avoir une sorte de cockpit un petit peu d'humeur et de performance. Donc je sais exactement, pour être performant, à quel niveau de consommation de données je dois être. Donc je trouve ce sujet passionnant. C'est vrai que j'ai peur quand je vois la Chine, ce que je disais en intro, en prenant vos données personnelles et vos données de santé, augmente vos prêts et voire même ne vous permet pas d'accéder à des trains. Là, je me dis que on est arrivé dans un monde, je vais pas dire sans retour, mais un monde qui va être complexe pour les futures générations. Je passe le micro à Glenn.
Aujourd'hui, avec les appareils qui communiquent, les ordinateurs qui stockent, les systèmes d'information de ces différents médecins, hôpitaux, etc., qui stockent on ne sait pas où les données, plus tout ce qu'on quantifie nous-mêmes, tout ce qu'on envoie nous-mêmes un peu partout, la donnée est de santé se retrouve totalement pas contrôlée par les personnes dans le cadre du secret médical, à savoir le patient et les praticiens eux-mêmes. Donc effectivement, c'est une question rigolote, c'est comment est-ce qu'on garantit ce secret médical quand il y a tout plein d'intervenants sur la chaîne? Donc c'est des questions qui essaient d'être abordées par une norme, HADS, au niveau des scènes d'information, mais qui est très très loin de pouvoir tout garantir. Effectivement, ça pose des tonnes de questions en termes d'impact et d'enjeux, puisqu'on a parlé d'assurance, mais ça pose évidemment d'autres rapports à la comme la notation des Chinois qui était évoquée tout à l'heure, je sais plus si c'était en off ou pas. En fonction des données, c'est pas seulement les assurances qui vont augmenter, c'est les prêts bancaires. Ça va être, j'ai une amie qui a lancé un projet Wimoe, comme ça c'est une banque indépendante. Elle a eu un AVC à 25 ans. Évidemment, elle n'a plus aucun prêt de personne. Mais ça va être aussi tous les rapports à la consommation de... C'est exactement l'inverse de ce qu'on avait sur Foursquare il y a quelques années. C'est pas en fonction de telle ou telle donnée, vous allez être privilégié. C'est en fonction de telle ou telle donnée, vous allez avoir un malus dans à peu près tous les magasins, en rapport ou non avec ce que vous allez faire. Donc tout ça, c'est lié au fait d'accéder ou pas, ou de croiser ou pas les données de santé. Et tout ça m'inquiète d'autant plus quand on parle de tout ce qui est blockchain, où on va avoir inscrit dans le marbre tout un tas de choses, et peut-être les données de santé, et quand sur ces blockchains, on rajoute en plus l'exécution automatisée de contrats,
Ce qui veut dire que c'est peut-être même plus un intérêt particulier à un instant T, mais une règle qu'on a écrite dans le marbre bien avant, qui va s'exécuter de façon totalement, je ne sais pas si c'est juste ou injuste, mais qui va s'exécuter parfaitement et de façon totalement millimétrée en fonction des données en question. Et ça, ça m'inquiète.
Oui. Merci Uwe d'avoir contribué aussi à ouvrir le marché de ces capteurs, de ces, tous ces terminaux numériques sur la santé connectée, et notamment d'avoir participé à l'effort de convaincre les réseaux de pharmacie. Moi, je reviens aussi, un peu comme Nicolas, de 10 années de la pratique de ces capteurs de données de santé, puis d'essayer de prendre connaissance où vont ces données, qui souvent sont dans les startups, etc. Je serais peut-être pas aussi pessimiste que mes chers confrères, puisque de tout temps, on avait vu que pour se faire prêter de l'argent, le banquier nous demandait un test d'effort chez un expert qui était non pas désigné par soi-même, par le patient, mais par le banquier, etc. Enfin, je pense que la santé a toujours été assez corrélée au risque. Je pense pas que la donne change énormément. De mon point de vue, moi, j'ai l'impression que tous ces capteurs, etc., on a maintenant moyen de peut-être comprendre. Il y a des techniques pour hacker les balances de chez WeSings et compagnie, pour faire que les data soient récupérées par soi-même. Enfin, il y a tout un collectif qui a bien travaillé sur ces capteurs. Je pense que, enfin, moi, mon point de vue, je suis plutôt assez optimiste. Tous ces appareils et l'espèce de maturité qui est en train de s'installer permet à chacun de piloter soi-même un petit peu sa santé, son bien-être. Et je reste aussi optimiste quand je vois, moi c'est toujours pareil pour différentes raisons, dans le check-up avec pas mal de prises de sang, et qu'on a toujours des organismes dans les hôpitaux pour quand on prélève le sang, sont toujours en termes de médias de communication, ils communiquent par fax. Donc je crois que, enfin, à titre personnel, merci Uwe, et merci à tous ceux qui, toutes les startups, qui continuent à nous trouver des devices qui sont pas uniquement conçus pour les athlètes, mais pour, qui vont aussi dans le sens du bien-être personnel.
En ces temps de Roland-Garros et en parlant d'athlètes, je vais me permettre de prendre la balle au bon. Et je suis entièrement d'accord avec toi, il faut remercier tous ces innovateurs qui font en sorte de mettre à disposition des services aux personnes qui en ont le plus besoin, en particulier vis-à-vis de la médecine prédictive. Et j'ai un autre point commun avec Uwe, c'est que, comme lui, Orwell a été l'un des premiers livres que j'ai pu lire en anglais. J'ai donc un rapport, enfin pas comme lui, mais j'ai un rapport particulier à Orwell. Et Orwell, sa vision dystopique, elle est basée sur l'utilisation des données privées pour un profilage social, ce qui est le berceau, vraiment, de cette vision cauchemardesque de l'État. Et si les données sociales définissent une personnalité, les données médicales, elles caractérisent une personne dans ce qu'elle a de plus intime, le corps. Et ça me permet de passer à un deuxième point où je suis vraiment d'accord avec lui. C'est que les assurances, effectivement, elles effectuent une forme de service public quand on y pense. Au-delà de la sécurité sociale, hein, elles mutualisent les risques et les coûts de santé. Elles assument un rôle public puisqu'elles créent une forme d'égalité face à la maladie. Elles permettent à tous d'accéder à un traitement. Elles génèrent de la sécurité face à l'incertitude, d'être prédisposés face à une maladie. C'est cool ça. Mais en fait, si les assurances, elles veulent nos données médicales, c'est pas du tout pour pouvoir nous aider à faire face à l'incertitude et pour faire de la médecine prédictive. Au contraire, c'est pour réduire cette incertitude et pour nous attribuer des facteurs de risque et vous faire payer pour vos prédispositions. Et là, on passe à une vision tout de suite un peu plus dystopique. Puisque ce service, effectivement, il devient encore plus excellent quand on est sain de corps et d'esprit. Hein. L'assurance, elle va coûter beaucoup moins cher. Et par contre, si on a une prédisposition qu'on n'a pas méritée, puisqu'on est né avec, d'un coup, l'assurance va devenir beaucoup plus coûteuse. Et là, c'est là que le bât blesse et qu'on se rend compte que finalement, on aurait peut-être tort de croire que les assurances sont une forme de service public. C'est le rôle de la sécurité sociale. Ça me permet donc de finir sur un petit truc. Cette vision de données personnelles, médicales qu'il faudrait offrir aux assurances, finalement, c'est peut-être le chaînon manquant entre Orwell et la Chine.
Merci et on se retrouve pour la deuxième partie dans quelques instants. Deuxième partie de notre podcast partie convergence et je passe la parole à Pierre Neuro.
J'ai l'esprit acerbe et je me rince la bouche chaque matin à l'acide citrique, voire l'acide critique parfois. Mais déjà, il faut être positif. Hein. L'IFINA aide les diabétiques et alerte RGPD Il se pourrait que j'hérite de mon père, outre une calvitie un petit peu précoce, ce truc pas très marrant qu'est le diabète. Donc, bah, merci pour ça, on va commencer par converger là-dessus. Ensuite, parce que je suis entièrement d'accord sur le fait que les données médicales ont un immense potentiel, mais je pense vraiment pour la recherche. Il y a énormément de recherches qui ont besoin de plus de données, qu'elles soient publiques ou médicales, afin de faire un grand bond et de provoquer un vrai choc, que ce soit technologique ou, encore une fois, médical, et de rendre nos vies meilleures, et ce, sur des délais finalement assez rapides. Et là, la grande question, ça devient comment est-ce qu'on les sécurise, ces données, en fait ? Comment est-ce qu'on peut les rendre on peut les rendre actionnables pour les chercheurs tout en faisant en sorte qu'elles ne mettent pas en danger nos vies privées. Et pour ça, on a parlé un petit peu de blockchain et je trouve que la blockchain, c'est un sujet intéressant. D'abord parce que il y a des chercheurs qui sont très renommés et qui pensent que sincèrement, avec les bonnes techniques d'anonymisation des données le stockage sur la blockchain, on peut mettre à disposition ces données à des chercheurs. Je vais balancer deux petits noms là, donc je vous inviterai à les regarder. Ça s'appelle l'une de ces boîtes s'appelle Nebula Genetics et l'autre Luna DNA. Mais surtout parce que la blockchain, en fait, elle permet de rendre la propriété de la donnée au moins à son utilisateur. Et ça, c'est un début. C'est un début. Si l'utilisateur la vend les yeux fermés, finalement, le gain social n'est pas très très grand. Mais avec les bons services qui soient pensés pour l'utilisateur et qui soient pensés avec la protection des données privées à leur cœur, finalement, peut-être qu'on tient là l'un des outils qui va permettre de rendre ces données médicales, de rendre ces données médicales actionnables pour la recherche et d'en faire une véritable richesse pour la société.
Mon cher Pierre, pour rebondir, tout à fait d'accord avec ton point de vue. Je regrette peut-être qu'autour de ce tour de table, on n'est pas un toubib ou une personnalité du monde médical. Et pour avoir un peu regardé le sujet, on se retrouve là encore à un problème. Santé connectée et tout ce qui est le corps médical, ce sont deux choses qui sont souvent assez dissociées. On a d'un côté des toubibs qui sont dragués par des marchands avec des matériels extrêmement professionnels à des prix exorbitants et pas du tout accessibles pour le grand public. Et de l'autre côté, des startups qui résonnent en silo, avec des approches très consuméristes, très grand public, et qui fonctionnent bien, avec plutôt des degrés d'adoption qui peuvent être optimisés. Tout ça pour dire que je crois que je reste très optimiste sur des mondes qui doivent apprendre à se parler, le corps médical et les utilisateurs. Je reste toujours un petit peu... Je me souviens d'une start-up, je sais plus si elle existe encore, qui s'appelait la Passions for Me, un truc qui était vraiment la collection de données par les utilisateurs qui permettait, je dirais, d'aller dans le sens de ce que tu dis, de collecter beaucoup de données sur la recherche par thérapie, par maladie, etc. Moi, je dirais, le sujet de la santé connectée... Il démarre. Je pense qu'on a eu beaucoup d'agitation du côté des grands corps, des start-up, etc. Mais que tout reste à inventer.
Merci Christophe. Je voudrais revenir dans le temps qui m'est imparti sur ce sujet qui a peu été abordé précédemment, à savoir les objets connectés. Ce sont des objets qu'on va trouver de plus en plus chez chacun de nous, entre les Alexa, les Google Home, et puis finalement même nos smartphones qui captent nos données personnelles de déplacement et autres, nos nombres de pas, en fait, même sans notre consentement. Tout ça collecte, capte et fait utiliser nos données par des tiers. Il y a beaucoup de technologies qui émergent autour de ça. Alors évidemment, il y a des intérêts derrière, mais j'imagine qu'il y a aussi des intérêts d'autre part. Et j'aimerais voir des moyens pratiques pour tous et chacun, pour reprendre la formule de tout à l'heure, de nous donner les moyens de s'émanciper du jugement par les assurances, par les marques, à travers nos données personnelles, nos données de santé en l'occurrence, puisque pour moi les données de santé, au-delà d'être une capacité physique, sont aussi, à travers cette capacité, l'exercice de cette capacité donne des libertés individuelles à chacun. Et sous prétexte de s'empêcher de mourir, j'aimerais pas qu'on s'empêche de vivre.
C'est vrai que les données personnelles de santé, elles sont déjà quantifiées par son téléphone portable. On voit sur l'iPhone, dans la rubrique santé, vous verrez, il y a un cœur. On peut quantifier son activité, ses pas et ses courses. On peut quantifier sa nutrition. On peut quantifier son sommeil. Si je vais sur Google et que je fais un check-in, ou que je, même si dans l'application est ouverte en permanence, ben Google sait en permanence où je suis, donc je suis complètement quantifié. Chaque fois que j'écris sur Facebook, ben, il va quantifier mon amitié, ma famille, mes relations. Donc en fait, on peut dire que la totalité de nos données personnelles de santé sont déjà quantifiées. Elles sont certainement pas croisées pour le moment parce qu'on pense que, enfin, on ne sait pas, hein, peut-être, mais que Facebook, Google et Apple n'ont pas pas de joint venture ou des accords pour partager ces données, mais ça reste possible dans un futur proche. Deuxième question que je me pose, c'est pourquoi on ne partage pas les données de la sécurité sociale, hein. On a eu un grand plan d'open data où l'ensemble des administrations devaient partager leurs données. Moi, je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir les données de la sécurité sociale et ça permettrait peut-être de tirer des grandes tendances. On comprend pas ces données. Alors, quand je parle, c'est des données anonymisées, hein. Je parle pas de vos données personnelles, mais c'est pas encore ouvert. Et sinon, en fait, moi, je crois vraiment à une chose, c'est la médecine parallèle. C'est écouter son instinct viscéral. J'en ai plein le dos. C'est faire confiance à ses tripes, en fait. L'Europe a même mis en place des programmes d'innovation sur ces médecines parallèles. Que là, on se dit, oh, on a déjà vu Orwell, le futur, mais on n'a peut-être pas encore vraiment cherché dans ces nouveaux territoires. Donc, je dis bravo à l'Europe et j'espère qu'on va vraiment explorer la médecine parallèle.
Moi, j'ai l'impression qu'on confond santé connectée, on limite beaucoup à la production des données personnelles, au demeurant qui va exploser prochainement avec le décryptage du génome, hein, qui va arriver, qui va encore changer la donne. Peut-être que j'ai quelques exemples qui montrent que le débat, il va aussi ailleurs. Par exemple, j'ai quelques applications en tête, entre autres une qui est lancée par l'hôpital Gustave Roussy, pour diminuer le temps d'hospitalisation. Donc les patients qui ont été opérés sont connectés et on a la température qui est enregistrée, donc avec le smartphone, quand il y a une élévation de la température, tout d'un coup, voilà, il y a un appel. Ça diminue de 50% le temps d'hospitalisation. Donc c'est la deuxième... chose un peu marquante, c'est le smartphone utilisé pour les analyses des yeux dans les pays émergents, en Inde ou dans d'autres pays, qui permet réellement de faire des détections de nombreuses personnes. Ça, c'est vraiment une application grand public qui a un impact très très fort. Peut-être dans la santé connectée aussi, on peut mettre tout ce qui est aujourd'hui création de jeux, entre autres de jeux thérapeutiques, comme pour la maladie de Parkinson. Et aussi, dans la santé connectée, on a aussi, de façon évidente, la robotisation. Entre autres, la robotisation des actes chirurgicaux. Jusqu'à maintenant, on a le stéthoscope. Peut-être que demain, de plus en plus, on va avoir des robots qui vont effectuer les opérations. Quel sera après le rôle du médecin? Est-ce que, du coup, il aura plus de temps? Tout ça, en fait, le débat, la santé connectée, c'est pas uniquement nos données personnelles. Il est beaucoup plus vaste que ça.
Je vais continuer sur les limites que vont nous permettre de toucher la santé connectée. De la même façon que le sempiternel « je n'ai rien à cacher » va trouver ses limites dans la santé connectée, parce qu'on a quand même probablement tous à cacher notre taux de cholestérol ou notre taux de glycémie à notre banquier, de façon à avoir un meilleur taux bancaire. On va toucher un autre problème, qui est celui de la cybersécurité. La santé connectée fonctionne énormément avec des objets connectés. On sait tous que ce sont des passoires d'un point de vue sécurité. On a eu un exemple assez frappant, il y a de ça un an ou deux, d'un pacemaker connecté qui était ouvert aux 80 et qui permettait, comme dans un James Bond qui a à peine 6 ou 7 ans, d'arrêter à distance le pacemaker, avec les conséquences qu'on imagine. Et on va multiplier ce genre de déboire dans les années qui viennent, ce qui fait que, très concrètement, on va rendre palpable, concret et parfaitement terrifiant des problématiques de cybersécurité qui sont déjà palpables, concrètes et parfaitement terrifiantes, mais uniquement pour les professionnels. Là, ça va devenir une préoccupation pour l'homme de la rue. Tout d'un coup, au fur et à mesure qu'on multipliera les prothèses, et Dieu sait qu'on va vers un monde où on va multiplier les pacemakers et tout un tas d'éléments qui vont nous permettre de mieux vivre, de vivre plus longtemps grâce à de la santé connectée, on va également introduire dans nos corps des éléments susceptibles de poser un réel problème de sécurité. Et ça va changer notre rapport à la cybersécurité, ce qui est finalement pas une mauvaise chose. Ça va le rendre plus compréhensible par l'homme de la rue et ça va permettre de prendre le sujet probablement beaucoup plus au sérieux. De la même façon que, c'est mon espoir, la santé connectée va nous permettre de prendre le problème des données personnelles un peu plus au sérieux.
Moi, je voudrais revenir sur le fameux mot de transition, dont la personne qui a été interviewée au début a dit qu'elle avait du mal à le saisir. Je pense que c'est une réalité. Aujourd'hui, tout le monde l'utilise, mais on a effectivement du mal à le concrétiser, à le visualiser, à le quantifier. Donc, je voudrais rappeler quand même la base, c'est que technologie n'est pas magie. Hein. Il ne suffit pas de mettre de la technologie pour résoudre un problème. En fait, la technologie, elle permet de structurer, de documenter, de hiérarchiser, de quantifier des données. Mais elle sait rarement interpréter ces données. Et que, en fait, toute technologie intervient dans un environnement socio-économique. Et dans la santé, on voit bien qu'il y a quatre types d'acteurs majeurs. Il y a effectivement les acteurs marchands qui veulent vendre des molécules ou des machines. Il y a des coûts qui sont souvent assez intéressants, mais avec des investissements lourds de R&D. On voit qu'il y a les fameux professionnels de santé qui sont les gardiens de l'expertise. On voit l'importance de l'État, enfin ou tout au moins de la puissance publique, de la sécurité sociale, avec les coûts. La santé, c'est quand même 10% du PIB. On voit aussi l'importance du patient, et notamment des patients qui sont un peu âgés, dont le corps commence à s'user, et qui commencent à avoir un petit peu des difficultés à gérer tout ça. Donc la vraie question, la technologie peut aider les gens, mais à condition qu'ils s'aident eux-mêmes. Et si soit ces quatre types d'acteurs vont rentrer dans un conflit un peu dur, de posture, de territoire, et auquel cas il y a une perte d'énergie, ou alors il y a un travail harmonieux, un travail d'interrelation, d'interconnexion que la technologie peut aider, à condition que les gens le veulent bien. Je rappellerai juste une chose quand même qui est spécifique de notre pays, c'est qu'il y a beaucoup d'argent qui est dédié pour sauver les gens. Et en général, quand on va à l'hôpital, on se rend compte des moyens qui sont mis en œuvre. Par contre, en termes de prévention, il y a énormément de choses à faire. Et peut-être que là, il y a une piste à travailler.
Merci à Pierre Noreau, Christophe Ducamp, Glenn Roland, Nicolas Vermont, Anne-Caroline Poco, Fabrice Eppelbon et Paul Richardet. Et rendez-vous au prochain numéro. Merci. Bravo.
Merci d'avoir écouté le quatrième épisode de 50 à Galaxie, le podcast de la transformation numérique. Pensez à vous abonner sur SoundCloud, iTunes et télécharger automatiquement et gratuitement les prochains épisodes. Et rendez-vous le 4 juillet prochain.